gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, ici Armand Dubois, bienvenue à cette émission où nous parlerons beaucoup au cours de l'heure qui vient de médias, d'informations et de la presse en général. Notre invité cette semaine exerce le journalisme depuis plus de 30 ans. Il le fait comme reporter à la télévision et a eu l'occasion de couvrir un vaste éventail d'événements. La presse électronique a beaucoup changé au gré du temps et la présence des chaînes spécialisées d'information a eu un impact majeur sur la façon d'aborder la nouvelle. Témoin privilégié de cette transformation et toujours fidèle à ce métier qu'il exerce, nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir M. Charles Faribault. Bonjour M. Faribault.
Et bonjour Armand.
Alors, effectivement, vous exercez ce métier depuis de nombreuses années.
Oui, depuis 1976, en fait.
Et vous avez commencé à la radio?
À CKCV, à Québec, une station qui a aujourd'hui disparu. Et puis ensuite à CHRC, toujours à Québec, une station, me dit-on, qui pourrait devenir une station de sport. Et ensuite, j'ai travaillé à Trois-Rivières, à une station de télévision qui s'appelle CHEM Télé 8, dont les lettres d'appel d'ailleurs signifient CHEM, c'est Canal 8 en Mauricie.
Ah oui.
Il y a beaucoup de gens de Trois-Rivières qui savent pas ça.
Alors donc, vous avez commencé votre métier par la voie des médias électroniques. Vous n'avez jamais exercé ce métier dans la presse écrite.
Jamais.
Mais vous avez écrit quand même beaucoup en cours d'année.
Oui, mais j'ai écrit pour certaines revues. J'ai écrit des articles comme pigiste pour le journal La Presse aussi, mais jamais de façon professionnelle pour être, si vous voulez, pour en vivre. Comme
et à la télévision, vous y êtes depuis longtemps?
Ben depuis, en fait, 1976, septembre, pour être plus précis. Une opportunité qui s'était présentée, c'est que Télémédia, à l'époque, possédait des stations de télévision, possédait CHLT à Sherbrooke, et ouvrait la station de Trois-Rivières. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était, à l'époque, la seule station qui était entièrement en vidéo, c'est-à-dire qu'on utilisait des caméras vidéo, alors que partout ailleurs, c'était des caméras film. Donc, oui. C'était fort intéressant pour un jeune homme qui venait de sortir de l'école de journalisme de l'Université Laval de vivre cette expérience-là. Mais au départ, je voulais, en fait, le cheminement que je m'étais fait, je me suis dit, si les gens de Télémédia ouvrent une station de télévision à Trois-Rivières, ce sont les gens de CHLN, la station de radio, qui vont vouloir aller travailler là. Donc, ça va me donner une opportunité d'aller postuler pour un emploi à CHLN. Et je me suis aperçu que les gens de radio, c'était des gens de radio et qu'ils ne voulaient pas aller à la télévision. Et donc, l'opportunité s'est ouverte du côté de CHEM. Puis, j'ai été accepté là-bas.
Ce qui est intéressant dans ce que vous mentionnez, c'est qu'on sent qu'à cette époque, on était en pleine époque d'évolution ou à tout le moins d'effervescence. Il y avait des nouvelles stations qui ouvraient leurs portes. Il y avait des gens nombreux qui se déplaçaient d'une station à l'autre. Ça a beaucoup changé depuis.
Ben, on parlait même, Armand, pour ceux qui s'en souviennent, de la création d'une troisième chaîne de télévision à l'époque. Okay. Et d'ailleurs, il y avait même un projet qui avait été présenté, qui est mort-né. Je ne me souviens plus du nom de la personne qui avait lancé cette chaîne-là, qui devait voir le jour, mais finalement, faute de moyens, faute de financement, ça ne s'est jamais fait.
Mais il y avait même aussi la presse qui avait imaginé investir dans le domaine de la télévision lors de la première vente de Télémétropole à Montréal.
Ça, c'était plus tard. Ça,
c'était
dans les années 80. Là, on est ce dont je vous parle, ça se passe dans les années 70, au milieu des années 70 à peu près.
Alors donc, vous arrivez dans ce métier au moment où il y a beaucoup de places disponibles, en quelque sorte, mais où on doit faire sa place.
En fait, il y avait cette station de télévision qui ouvrait, mais c'était à peu près la seule chose de nouveau qui existait à l'époque, parce que de ma promotion, très peu de gens ont pu se trouver des emplois. Et, en fait, je pense que sur une promotion, je crois qu'on était une centaine à graduer à chaque année de cette école-là. Il y en avait peut-être deux ou trois qui devenaient journalistes. Les autres s'en allaient dans le domaine des communications ou devenaient fonctionnaires. C'est des gens, beaucoup de gens étaient de Québec et rêvaient de devenir responsables des communications dans un ministère.
Alors, nous allons porter un regard sur ce métier qui a, dont vous avez été, je le disais dans la présentation, un témoin privilégié, vous l'êtes toujours, mais nous allons aussi présenter de belles pièces musicales. Celle qui initie cette émission, c'est celle de Gilles Vigneault, mais interprétée par un couple, frère et sœur, que vous connaissez bien, sans aucun doute.
Absolument. Et je pense que c'est à ma suggestion que vous avez choisi cette pièce-là. Alors, j'ai très hâte de l'entendre.
Alors, la chanson démodée, interprétée par Marie-Claire et Richard Séguin.
J'ai trouvé mamie en haute montagne. La lune était ronde, le hibou muet. En haute montagne, je l'y ai laissé. À la nuit tombante, j'irai la trouver. Amie à les pieds, comme biche vive, sa peau est plus blanche qu'au pied de sapin. Si je la
De retour à l'émission Au gré du temps, en présence aujourd'hui de M. Charles Faribault, reporter, journaliste à la télévision, au réseau privé TVA, depuis plusieurs années à TVA, je crois.
28 ans. Je suis entré en juin 1980, donc c'est assez facile à compter.
Mais vous n'avez pas toujours été à TVA, vous avez aussi passé par la grande école qu'on appelait Radio-Canada.
Oui, j'ai fait la radio et la télévision de Radio-Canada en 1976, après avoir été accepté donc à CHEM. J'ai fait, à l'époque, quand on est jeune, on fait beaucoup de stations. Et puis, on est plus impétueux, on est moins stable. Alors, donc, j'ai postulé rapidement pour être... Je voulais revenir à Montréal, étant montréalais. Et j'ai postulé à Radio-Canada, qui avait besoin de journalistes à l'époque. Et j'ai été accepté à la télévision de Radio-Canada. À l'époque, c'était Bernard Derome qui animait le Montréal ce soir.
Qu'est-ce qui vous a incité, plus jeune, à opter pour ce métier de journaliste?
C'est un incident assez... marquant. C'était dans la grande mouvance de toutes les manifestations. Il y avait énormément d'ébullition à l'époque à Montréal. Il y avait presque pas une semaine où il n'y avait pas un déferlement de manifestations, des grosses manifestations. Là, on parle de... C'était rarement au-dessous de 5 000 à 6 000 personnes qui descendaient dans la rue. Souvent, il y avait même 15 000, 20 000 personnes.
Non, on parle du début des années 70.
On parle du début des années 70, exactement. Alors, plus particulièrement, 1900 1972, 1973.
L'époque du Front commun.
L'époque de la grève à la presse, l'époque
Muriel.
Oui, l'époque du McGill français.
Oui.
Alors, toutes ces manifestations-là, c'était comme un aimant pour un jeune. Moi, j'avais 17 ans lors de la crise d'octobre de 1970.
Et ça, c'était une période marquante.
Ça aussi, ça a été marquant. Donc, il y avait toute une mouvance qui se faisait au Québec. Et je n'y allais pas nécessairement par conviction, j'y allais beaucoup par curiosité. Et un jour, j'avais apporté un appareil photo et j'avais pris des photos de policiers qui faisaient leur travail de façon un peu plus rude que maintenant, parce qu'il n'y avait pas d'escouade de anti-émeute à l'époque. Et les policiers s'étaient retournés contre moi et m'avaient demandé si j'avais une carte de presse. Et je leur ai dit que non. Alors, ils ont pris mon appareil photo et ils ont sorti le film, ils l'ont exposé et là ils m'ont dit petit gars, tu retournes chez toi, ce que j'ai fait, mais en me disant que si j'avais eu ma carte de presse, ce qui s'était passé ne se serait pas produit. Donc je me suis dit, faut que je devienne journaliste. C'est une forme de protection, et si j'avais été journaliste, mon film, je l'aurais gardé.
Action, réaction, voilà. Et vous êtes arrivé un peu ce qui était arrivé à l'époque à Claude-Jean de Virieux. On se souvient tous de cette histoire de la Saint-Jean-Baptiste
en 68, mais Claude-Jean était journaliste chevronné, oui, oui, en devoir, voilà. Et puis il a été pris dans le feu de l'action.
Alors que vous, ça a été l'allumeur de réverbère,
oui, oui, c'est ça. C'est la bougie d'allumage.
La bougie d'allumage.
L'événement qui a déclenché ça. Parce qu'en fait, moi, je voulais m'en aller en criminologie, mm-hmm, à l'Université de Montréal, quoique j'avais des mathématiques assez faibles. Et on exigeait des mathématiques. Fouillez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée. Pourquoi en criminologie, on avait besoin de mathématiques. Et finalement, cet incident-là est venu tout chambarder. Et je me suis dit, il y avait une espèce de curiosité naturelle de vouloir être témoin de ces événements-là. C'était fascinant, quelque part. Aussi, les mouvements de foule, c'est quelque chose. Hein,
ouais. Et rappelons-nous l'époque où il y avait des revendications, comme vous le mentionnez, de toutes parts, provenant de toutes parts. Et ça découlait aussi de ce fameux mai 68 dont on célèbre maintenant les 40 ans. Il y avait une multitude de jeunes en demande à l'égard de la société civile.
Ben c'est ça, la création des cégeps. C'était, ouais, d'ailleurs la première fois que les étudiants se mettaient à occuper des locaux de leur propre collège. Il y avait une ébullition qui n'existe plus, fort heureusement. On a tracé finalement le sentier pour ceux qui nous ont suivis. Et puis, il y avait peut-être, avec raison, des choses à changer aussi.
Alors, nous poursuivrons sur le fleuve agité de cette période. Après l'audition d'une pièce, nous avons choisi pour vous des pièces de compositeurs russes. Vous aimez beaucoup les compositeurs russes.
Oui, je trouve que l'âme russe chez les compositeurs, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et j'ai toujours adoré les Russes, mais les Italiens aussi, les Allemands, les Français, mais les Russes en particulier.
Moussorgski, ça évoque pour vous une pièce en particulier?
Ben, ça évoque surtout La nuit sur le Mont Chauve, mais je crois comprendre que vous avez décidé d'en jouer une autre.
Oui, pour vous en faire découvrir une qui est peut-être un peu moins connue, c'est le prélude de l'opéra de Moussorgski, opéra en cinq actes, dis-je bien, Kovanchina. On écoute donc le prélude qui est interprété ici par l'Orchestre symphonique de Vienne sous la direction de Leonard von Lindenberg.
Thank you.
Avec nous aujourd'hui, M. Charles Faribault, reporter, journaliste, et qui a bien sûr exercé ce métier depuis de nombreuses années, témoin de nombreux événements. Est-ce qu'il y a des événements marquants qui vous sont encore très présents à la mémoire?
Bien, d'abord, un des événements marquants, moi, qui a débuté ma carrière, c'est les Jeux olympiques de 1976.
À Montréal?
Oui. L'incendie de la biosphère, entre autres, que j'ai décrit en direct à partir d'un téléphone pour CHRC. Ensuite, évidemment, tous les rendez-vous politiques, hein, l'élection du Parti québécois en 1976, le référendum de 1980, la crise amérindienne de 1990, la crise du verglas de 1998. C'est assez varié, comme vous pouvez le voir. Ça va du climatique au politique en passant par le social.
Est-ce que, après toutes ces années, vous qui êtes passé par les écoles de journalisme et par la grande école, celle de l'Université Laval, est-ce que votre regard sur ce qu'est devenu l'information est, comment dire, plus sombre maintenant qu'il pouvait l'être à l'époque?
Bien, ce qu'il faut préciser, c'est que des écoles de journalisme pures, là, qui ne sont que du journalisme, c'est souvent maintenant que des mineurs dans les universités, faisant partie de programmes qui sont plus davantage axés sur les communications ou les nouveaux médias. L'école de journalisme qui a été sabordée en 1978 par l'Université Laval, il y avait une philosophie qui était très très empreinte des grands courants de pensée de l'époque de Marcuse, de MacLuhan. On disait, entre autres, que MacLuhan disait « the media's message ».
Et ça, c'est plus vraiment le cas.
C'est plus vraiment le cas parce que aujourd'hui, c'est davantage, on cherche davantage à mettre la personnalité du journaliste à l'avant-plan et l'événement devient presque secondaire.
Et c'est là où on parle d'information spectacle, par exemple.
Oui. Et ça, c'est une. Est-ce que je vais utiliser le terme déviance? Est-ce que c'est un dérapage? Le fait est qu'à l'époque, une des grandes règles qu'on nous donnait, c'était vous ne pouvez pas sortir une information si vous n'avez pas de trois sources indépendantes la confirmation que cette information-là existe. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, compte tenu de la nature même de la bête, là, des réseaux de radio et de télévision, de nouvelles en continu, on va adapter, on va évoluer avec la nouvelle. Vous allez avoir des gens qui vont arriver au micro, qui vont vous dire « Nous venons d'apprendre que les informations sont pour l'instant fragmentaires. La nouvelle évolue.
» On cherche toujours à devancer son concurrent. C'est l'instantanéité au dépend, malheureusement, parfois d'une information juste.
Oui, et ce qui amène à des gaffes monumentales. Hein. On fait mourir des gens qui sont en parfaite santé, entre autres. Oui. Et il y a eu des bévues très, très, très importantes qui ont été causées parce que la pression est tellement forte, parce que l'appel du public aussi. Mais on corrige au fur et à mesure. C'est cette tendance-là qui se vit aujourd'hui. C'est que s'il y a une erreur qui a été commise il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, il y a 15 minutes, on va la corriger en non.
Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire, bon, la disparition probablement prochaine prochainement d'une salle complète d'information. On en a vu quelques-unes disparaître au plan radiophonique. Voilà que TQS, pour ne pas la nommer, va probablement fermer son service des nouvelles. Quand on parle de la pluralité des sources, voilà encore une occasion où cette pluralité ne peut plus s'exercer.
C'est qu'il y a un phénomène, Armand, qui est en train de se produire dans le domaine de la télévision qui s'appelle la haute définition. L'arrivée de la haute définition prévue pour 2012 à peu près fait en sorte qu'actuellement les stations de télévision sont en train de se restructurer. Or, il y a un réseau de télévision qui est très peu connu au Québec par les auditeurs francophones qui s'appelle Global. Il n'est pas connu parce qu'il n'est pas disponible. Il est sur l'antenne hertzienne et il est sur le câble, mais sur le câble national. Et donc, les gens de Montréal ont peut-être un petit peu de difficulté parfois à capter cette station-là qui est authentiquement montréalaise. Or, cette salle-là, l'automne dernier, on en a charcuté presque la moitié, sinon les deux tiers. On a fait disparaître celle de Québec, celle de Sherbrooke aussi. Il reste presque plus rien du réseau Global. Ce qui est en train de se produire actuellement avec la télévision 4 saisons, c'est un peu le même phénomène, c'est les coûts. C'est tout ce qui est... La lourdeur économique, administrative de maintenir une information de qualité, ça coûte énormément d'argent. Et l'impact que ça peut avoir, on ne le sait pas sur les réseaux plus traditionnels.
Mais on a vu des stations radiophoniques entièrement charcutées au cours des dernières années. Bon, on a parlé du phénomène de convergence. Voilà qu'encore une fois, une source d'informations dites locales, mais une source quand même risque de disparaître. Comment se fait-il qu'on n'entende pas davantage les journalistes, les gens qui exercent ce métier, et peut-être aussi d'autres personnes associées à cette vie collective, cette vie sociale, de prendre place sur la place publique et de la dénoncer?
On entend ça, c'est-à-dire que, par exemple, quand la salle des nouvelles de CGMS a disparu, quand celle de CKAC a disparu, ça, c'est des phénomènes qui se sont produits du côté de la radio. Il y a des gens qui ont protesté, qui ont dit que ça n'avait aucun sens, mais le phénomène a fait qu'aujourd'hui, il y a un réseau de radio qui d'ailleurs occupe l'ancienne position de Radio-Canada sur la bande AM, qui ne fait que de l'information. Donc, quelque part, on a perdu, oui, des salles de nouvelles pour gagner un réseau d'information. Est-ce que ça s'équivaut? Je ne sais pas, mais je fais juste regarder là, ce qui s'est passé. Du côté de la télévision, il y a quand même eu la naissance, il y a 10 ans, de LCN, et il y a 18 ans ou 15 ans de RDI, et il y a ces réseaux de télévision qui existent
aussi.
Oui,
mais la conséquence de l'arrivée de ces stations dont vous parlez, spécialisées, LCN, RDI et tout le reste, ça a été d'appauvrir les chaînes généralistes qui avaient aussi des missions d'information.
Qui avaient l'obligation par le CRTC de pouvoir, de devoir fournir de l'information. C'est ce qui est contesté actuellement par Hamstar, ce qui va être contesté par Hamstar devant le CRTC, de ne pas avoir cette obligation-là. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Je ne sais pas. Si moi, je me projette dans le futur, je me dis qu'un jour, peut-être, il y a des décisions qui seront prises par les grands gestionnaires de chaînes de télévision qui pourraient amener à ceci. C'est-à-dire que les chaînes généralistes n'auraient plus d'informations et qu'on rabattrait tous les effectifs vers les chaînes spécialisées. Parce que, à cause de la fragmentation des auditoires, les gens qui voudraient de l'information iraient donc sur ces chaînes-là. Donc, il y aurait un auditoire captif sur ces chaînes-là. Et ceux qui veulent aller sur des chaînes généralistes où il y a de la variété, parce que les sports, on le sait, sont rendus sur des chaînes spécialisées. Il n'y a plus de hockey à Radio-Canada, quoique on nous dit que ça pourrait revenir si ce n'est pas déjà le cas. Mais quand on veut écouter les matchs de hockey, ben on va sur RDS ou on l'écoute à la CBC.
Est-ce que vous, quand vous regardez ce portrait, ça vous inquiète à titre de journaliste?
Ce qui m'inquiète, c'est que l'impact pourrait de la disparition de l'information à TQS pourrait avoir un impact de motivation sur, à ce moment-là, les propriétaires de TVA qui se diraient, bon, il y a un concurrent qui vient de disparaître, est-ce que ça serait nécessaire à ce moment-là? Par exemple, prenons simplement un exemple, l'hélicoptère qui coûte extrêmement cher, si on en arrivait à la décision de plus le faire fonctionner, ben, ça serait peut-être plus facile à prendre cette décision-là dans le futur que maintenant, alors qu'il y a un concurrent.
Alors, vous parlez de l'hélicoptère, la pièce suivante est probablement bien choisie, l'oiseau de feu. La danse infernale, extraite bien sûr de cet oiseau de feu. Encore une pièce d'un compositeur que vous aimez fort. Et probablement.
Un autre russe.
Igor Stravinsky.